Vous écoutez, on lit pour vous.
Traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides mais largement prescrit. Un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse. Singulaire, un médicament traitant l'asthme et les allergies est lié depuis des années à des suicides. Au point où Santé Canada émet désormais une mise en garde devant l'utilisation de ce médicament. Pourtant, de plus en plus de patients assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec en consomment. Une tentative de suicide à 6 ans. Le médicament singulaire fait désormais l'objet de mises en garde et précautions importantes par Santé Canada, le type d'avertissement le plus fort qui existe au pays. De nombreux patients se voient tout de même prescrire ce médicament, souvent lorsque les autres traitements contre l'asthme échouent, même au Québec. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, rencontre régulièrement des patients qui subissent des effets secondaires sévères du médicament. J'en ai au moins toutes les deux semaines. Agitation, agressivité, dépression, troubles du sommeil, pensées et comportements suicidaires. La docteure Ducharme les a tous vus. L'une de ses patientes a commencé à prendre le médicament singulaire à 5 ans. Elle a fait une tentative de suicide à 6 ans. À 6 ans, lance la docteure Ducharme. Puis elle a fait une seconde tentative de suicide à 11 ans, alors qu'elle prenait toujours le médicament. Lorsque la médecin a rencontré la jeune fille pour la première fois à l'âge de 12 ans, elle s'est empressée de lui faire arrêter le traitement. Le singulaire, de son nom générique Montelukast, est un médicament approuvé pour le traitement de l'asthme chez les adultes et les enfants et pour aider à contrôler les symptômes nasaux des allergies saisonnières. Lors de sa mise en marché en 1997 au Canada, le fabricant de l'époque, Merck, notait peu d'effets secondaires dans les effets cliniques. Il y avait un petit peu de nausée, un petit peu de mal au ventre, un petit peu de mal de tête, mais pas de grosses choses. Il n'y avait pas d'effets secondaires neuropsychiatriques, se remémore la docteure Francine Ducharme. Il faudra attendre en 2008 pour que de nouveaux signalements poussent Santé Canada et la FDA à mettre à jour la liste d'effets secondaires du médicament, afin d'y inclure la dépression, les pensées et les comportements suicidaires et l'anxiété. Les effets secondaires peuvent se présenter différemment chez les adultes. Les effets qu'on voit, ce sont souvent des cauchemars. J'ai eu quelques cas où les personnes avaient des problèmes anxieux. Des gens disaient aussi qu'ils avaient une moins bonne humeur, dit la docteure Christelle Godbout, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, IUCPQ, spécialisée en asthme chez les adultes. Elle voit des patients avec des effets secondaires du médicament quelques fois par année. Un avertissement inexact. Jusqu'à présent, Santé Canada a reçu plus de 4000 déclarations d'effets indésirables en lien avec Singulair. De ceux-ci, 3116 rapports étaient sérieux, indique le porte-parole de l'agence Mark Johnson. Les professionnels de la santé ont d'ailleurs été prévenus par Santé Canada du risque d'événements neuropsychiatriques graves associés au Montelukast au moyen d'une nouvelle mention de mise en garde et précautions importantes en août 2020. Cette mention constitue le type d'avertissement le plus fort pour un produit au Canada. Les bienfaits de Singulair chez certains patients pourraient ne pas être supérieurs au risque encouru, surtout lorsque les symptômes de la maladie sont légers et qu'ils peuvent être bien maîtrisés avec d'autres traitements, peut-on lire dans l'avertissement de Santé Canada. La docteure Ducharme estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada ne révèle pas l'ampleur du problème. Dans la monographie du produit datant de 2021, on peut lire que les effets indésirables ont été signalés très rarement, soit dans moins de 1 cas sur 10 000. C'est inexact de dire que ça arrive moins de 1 sur 10 000, s'exclame la docteure Ducharme. Ceci suggère que les patients, les pharmaciens et les médecins devraient apporter de façon plus systématique tout effet secondaire. Santé Canada est plutôt d'avis que les avertissements inclus dans la monographie actuelle de produits sont à jour et communiquent les risques en question. Le signalement d'effets indésirables est pris au sérieux, a pour sa part déclaré Dominique Quirion-Dorgagnon, fabricant de Singulair depuis 2021. Comme pour tous nos médicaments, nous surveillons continuellement l'innocuité de Singulair. Quelques mois avant Santé Canada, la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis, avait également demandé qu'une mise en garde encadrée, ou Black Box Warning en anglais, soit ajoutée aux informations de prescription du Montelukast pour décrire ses effets secondaires graves sur la santé mentale. La FDA a annoncé du même coup avoir identifié 82 cas de suicide associés aux médicaments, dont 19 chez des enfants. Sachez que certains patients ont rapporté des événements neuropsychiatriques après l'arrêt du Montelukast, précise l'agence sur son site internet. Lorsque la docteure Christelle Godbout a terminé son cours de pneumologie en 2014, les effets secondaires du médicament Singulair étaient peu connus. Je prescrivais le Singulair aux patients et je ne leur parlais pas des effets secondaires parce que ce n'était pas très bien publicisé. Elle a été beaucoup plus sensibilisée aux effets neuropsychiatriques depuis que la FDA a émis son Black Box Warning en 2020. Elle estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada passe, encore à ce jour, inaperçu par rapport à celui de nos voisins du Sud. Les mises en garde de Santé Canada, je dirais que c'est moins bien publicisé. Le Black Box, ça fait peur. Au moins 38 000 utilisateurs au Québec. Malgré les sérieux avertissements de l'agence fédérale, le médicament est encore prescrit. En 2023, plus de 38 000 personnes ont eu recours au médicament Singulair, en augmentation constante dans les 10 dernières années, selon les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, obtenues par la presse. Ces données ne concernent que les personnes assurées par le régime public. Ce n'est jamais un premier choix en asthme, dit la docteure Christelle Godbout. On va se servir du Singulair chez l'adulte en ajout aux pompes de corticostéroïdes quand elles ne sont pas suffisantes pour contrôler l'asthme. Singulair a l'avantage d'être un médicament en comprimé, dit la spécialiste. Les patients oublient beaucoup les pompes, alors qu'un médicament par la bouche, ils le prennent assez régulièrement. Singulair peut également permettre d'éviter d'augmenter les doses de cortisone dans les pompes qui peuvent avoir des effets indésirables à long terme. Pour avoir accès aux thérapies avancées contre l'asthme, soit des médicaments en injection remboursés par la RAMQ, le gouvernement demande d'ailleurs à ce qu'il y ait eu un essai de Singulair ou d'un autre médicament avant de pouvoir accéder à ces thérapies avancées, dit-elle. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. Bien que la consommation du médicament par les mineurs ait diminué dans les 10 dernières années, plus de 2000 enfants de moins de 10 ans sont toujours traités avec ce médicament. Le Singulair est souvent prescrit lorsque les autres traitements contre l'asthme se révèlent inefficaces, explique le docteur Larry Lanz, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est le cas du fils de Mylène, qui était âgé d'à peine un an lorsqu'il a commencé à prendre du Singulair l'année dernière. Le bambin avait essayé deux autres médicaments auparavant sans succès. Les effets bénéfiques du Singulair ont été instantanés. Ça a été magique. L'asthme a complètement disparu. Ce n'était jamais arrivé avant que son asthme soit contrôlé, raconte Mylène. La famille avait été prévenue par l'équipe médicale de suivre attentivement les éventuels effets neurologiques du médicament. Mais la pharmacienne m'avait dit que c'était une vieille molécule et que le médicament existait depuis longtemps et qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Dans les jours qui ont suivi, elle a constaté que son fils était devenu hyperactif. On n'était même pas capable de lui lire un livre. Il fallait toujours qu'on soit dans le mouvement. Elle en a discuté lors du suivi de son fils à l'hôpital. La famille et l'équipe médicale en ont conclu que les bénéfices étaient plus grands que les risques. Or, les semaines passées, son agitation ne faisait qu'augmenter. Il y a une soirée où je n'arrivais plus à entrer en contact avec lui. Tout le stimulait, la chaleur, les couleurs. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. La famille a arrêté le médicament dès le lendemain. Une semaine plus tard, le garçon était de retour à son état normal. Il est venu nous serrer dans ses bras et rester collé sur nous. Il ne faisait jamais ça. On s'est rendu compte que le médicament avait vraiment eu un gros effet sur lui. On m'avait dit que c'était comme prendre une pilule de sucre, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, se remémore Anne-Lisa Ogno. La jeune femme s'était faite prescrire le médicament Singulair pour contrôler son asthme en 2007. Alors étudiante à McGill, à Montréal, pour sa thèse de doctorat, Madame Ogno s'est mise à souffrir d'une dépression sévère quelques semaines après avoir commencé à prendre le médicament. « Je n'ai pas d'antécédent de dépression » et ça m'a frappé très rapidement. La jeune femme avait entendu parler de suicides signalés aux États-Unis en lien avec Singulair. J'ai demandé à ma psychiatre si ma dépression pouvait être due au Singulair, mais elle ne savait rien à ce sujet à l'époque, se rappelle celle qui est aujourd'hui enseignante au collège Dawson. Voyant de plus en plus de recherches sur les effets secondaires du médicament, elle a décidé de cesser de prendre la médication en 2010. Ses effets négatifs ont grandement diminué, mais n'ont jamais complètement cessé. De 10 à 15% des enfants touchés. La docteure Francine Ducharme, spécialiste de l'asthme chez les enfants, fait partie des chercheurs qui ont étudié les effets secondaires du médicament. Elle se rappelle l'histoire d'une patiente qu'elle a mise sur Singulair. Son papa m'a appelé deux semaines après et m'a dit « Ma petite princesse est devenue une bitch ». La fillette était devenue agressive et irritable. Quand les parents ont arrêté la prise du médicament, l'état de leur fille est revenu à la normale. Mais quand ils ont réessayé le médicament, ses symptômes sont revenus. Intriguée, la docteure Ducharme a décidé d'explorer le sujet. Elle a demandé le consentement des patients de la clinique d'asthme du CHU Sainte-Justine pour accéder à leurs dossiers médicaux à des fins de recherche. Elle a ensuite analysé et comparé les résultats des patients traités avec du Singular Montelukast à ceux des patients traités avec des corticostéroïdes, un traitement populaire contre l'asthme. Les résultats de son étude publiée en 2017 sont sans équivoque. On s'est rendu compte qu'il y avait 10 à 15% des enfants qui avaient un effet secondaire neuropsychiatrique avec le Montelukast, dit la docteure Ducharme. Cela inclut un effet sur le sommeil, comme un délai d'endormissement ou des terreurs nocturnes, et des effets sur l'humeur, où les enfants sont tristes ou irritables. Elle précise que les premiers effets secondaires surviennent généralement dans les 2 premières semaines, tandis que les suicides tendent à se produire de 2 à 4 ans après le début de la prise du médicament. Environ 85% n'ont aucun effet secondaire, précise toutefois la docteure Ducharme. Les enfants sont généralement plus à risque que les adultes d'avoir des effets neuropsychiatriques, indique le docteur Larry Lanz, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Des études réalisées chez les rats suggèrent d'ailleurs que le médicament pourrait agir directement sur les cellules du cerveau. Prévenir les familles. Santé Canada rappelle aux professionnels de la santé de rester à l'affût de tout changement de comportement ou de tout nouveau symptôme pendant la prise du Singular et de cesser de prendre le médicament si un changement de comportement est observé. On prévient toutes les familles que ça peut causer des effets comme un changement de comportement. Si elles notent un changement, elles doivent arrêter le médicament et normalement les effets secondaires disparaissent en 2 ou 3 jours, dit le docteur Lanz. L'Ordre des pharmaciens du Québec rappelle pour sa part que les pharmaciens ont la responsabilité de se tenir informés sur les nouvelles études publiées sur les médicaments qu'ils distribuent et d'accompagner adéquatement leurs patients en tenant compte des avancées scientifiques. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, lance un message aux professionnels de la santé. Si vous le prescrivez, il faut que vous ayez le temps d'expliquer. Le plus important, c'est que les gens soient au courant que ça peut arriver. C'était « Traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides, mais largement prescrit », un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse.
Interdire les réseaux sociaux aux mineurs, bonne ou mauvaise idée? Un texte d'Eya Ben Nejm, paru le 4 août 2023 dans l'Express de Toronto. Dès mars 2024, l'Utah interdira aux mineurs d'utiliser les réseaux sociaux sans le consentement d'un adulte. Le gouverneur républicain de l'État américain estime que les plateformes de réseaux sociaux nuisent à la santé mentale des jeunes. Mais l'efficacité d'une telle mesure demeure incertaine. La loi, promulguée en mars 2023, donne aux parents le droit d'interdire l'usage des réseaux sociaux à leurs enfants ou d'installer un couvre-feu afin d'en limiter l'accès. Le texte impose aussi aux plateformes de ne pas enregistrer les données des plus jeunes utilisateurs. Linda Pagani, professeure à l'École de psycho-éducation de l'Université de Montréal, est d'avis que la meilleure chose, c'est de les interdire. Je pense que les jeunes adolescents devraient comprendre que ces outils-là vont les affaiblir dans leur développement, car ils sont créés par des algorithmes qui sont là pour les accrocher, explique celle qui est aussi chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Des jeunes de plus en plus perturbés. Au Canada, 23,5% des garçons et 32,4% des filles de 12 ans utilisent les réseaux sociaux de manière intensive, selon l'enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire de Statistique Canada, parue en 2018. Ce temps passé sur les réseaux sociaux n'est pas sans conséquence pour les plus jeunes, selon Marie-Pierre Jolicoeur, doctorante en droit à l'Université Laval. Les impacts sur le sommeil des adolescents sont très préoccupants. Ellipse. Tous les enjeux de la lumière bleue, ça réduit la qualité et la quantité de sommeil, précise-t-elle. L'usage accru rend aussi les enfants et les adolescents plus vulnérables, particulièrement pendant la période prépubertaire où les hormones les rendent un peu plus sensibles observe Linda Pagani. Les jeunes adolescentes sont particulièrement à risque de développer des troubles alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie, révèle la psychoéducatrice. Elle évoque notamment les distorsions de l'apparence chez les filles. Quand on est jeune, ellipse, on pense que l'idéal, c'est ce que l'on voit dans les médias sociaux, qu'on devrait avoir des lèvres ou des cils plus étoffés. Interdire, mission impossible. Serge Larrivé, professeur titulaire à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, considère que l'interdiction des réseaux sociaux est inutile. Tu n'interdis pas ce que tu ne peux pas contrôler. Les adolescents vont trouver un autre moyen pour être sur les réseaux sociaux. Anadie Chebib, résidente de Toronto et mère de deux enfants devenus aujourd'hui adultes, partage ce constat. S'ils veulent cacher, mentir, ils vont le faire. Alors c'est inutile de se mettre vraiment contre eux pour ça. Elle a permis à ses fils d'avoir un téléphone cellulaire vers l'âge de 14 ans, tout en s'assurant qu'ils en faisaient une utilisation responsable. Je n'aurais pas été capable d'interdire parce que, technologiquement parlant, ils sont beaucoup plus avancés que nous, donc ils connaissent tous les trucs et les astuces qu'on utiliserait pour contrôler, détaille-t-elle. Attendre 18 ans pour avoir une vie privée. L'idée de mettre des enfants dans des bulles de verre qu'ils ne touchent pas au numérique jusqu'à 18 ans, c'est irréaliste et ce n'est pas souhaitable, indique Marie-Pierre Jolicoeur. Le manque de vie privée étonne également la doctorante. À ses yeux, il existe un risque de tomber dans le paternalisme auprès de l'enfant, ce qui ne favorise pas le développement de son autonomie dans l'environnement numérique. On met dans le même bateau un enfant de 3 ans puis un adolescent de 17 ans, alors que les enjeux développementaux et d'autonomie ne sont pas les mêmes, ajoute-t-elle. L'interdiction des réseaux sociaux peut par ailleurs devenir un sujet de division dans les écoles. Un adolescent interdit de réseaux sociaux se ferait ostraciser par ses amis. Autrement dit, il pourrait se faire dire « Tu ne fais pas partie de la gang, tu n'as pas de réseaux sociaux, toi », assure Serge Larrivé. L'éducation est la clé. D'autres avenues peuvent être offertes aux parents inquiets du temps passé par leurs enfants sur ces plateformes. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle Le Ciel, situé à Montréal, qui offre des ateliers pour faire de la sensibilisation dans les écoles, au primaire et au secondaire, informe Marie-Pierre Jolicoeur. Même si des écoles offrent des ateliers de sensibilisation au risque des réseaux sociaux, Anadie Chebib est d'avis que l'éducation doit se faire aussi en dehors de la salle de classe et surtout par l'exemple. Ils nous voient ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas poster des selfies, et donc ça aide beaucoup, souligne-t-elle. Heureuse d'avoir pu éviter les problèmes avec ses fils, la mère de famille connaît des parents qui ont vécu des expériences plus difficiles dans son entourage. Elle est d'avis qu'une loi, comme en Utah, pourrait aider sans que ce soit une solution parfaite. Les enfants seront plus tentés de faire quelque chose d'illégal, prévient Anadie Chebib. L'Utah n'est pas le seul à légiférer sur les réseaux sociaux. Le 7 juillet 2023, la France a rendu obligatoire l'accord parental pour accéder aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. C'était Interdire les réseaux sociaux aux mineurs, bonne ou mauvaise idée, un texte d'Eya Ben Nejm, paru le 4 août 2023 dans l'Express de Toronto.
Ce qu'on devrait dépenser pour l'achat d'un véhicule. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 20 août dans La Presse. Oh, je sens que certains d'entre vous ne vont pas m'aimer cette semaine. Mais je l'assume. Écrire dans le journal vient avec des privilèges. Ne pas se faire engueuler de temps en temps n'en fait pas partie. Vous ne m'aimerez pas, parce que je vais parler de votre véhicule. Oui, oui, celui-là même qui est entreposé dans l'entrée, dans le garage ou sur la voie publique et qui vous appauvrit 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 52 semaines par année. En fait, je profite de la porte ouverte la semaine dernière par Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, selon qui il va falloir réduire de moitié le nombre de véhicules au Québec pour cesser d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère d'ici 2050. Le nombre de véhicules augmente bien plus vite que la population au Québec depuis 20 ans, a remarqué le ministre. En plus de causer de la pollution, nos habitudes de transport nous coûtent excessivement cher et cet argent pourrait servir à nous enrichir. Beaucoup de citoyens disent être pris à la gorge depuis la hausse des taux d'intérêt. Je ne nie pas que ce soit vrai, mais dans au moins une partie des cas, si on recule d'un pas, on découvre que les mains qui leur serrent la gorge avec tant de force sont leurs propres mains. En Amérique du Nord, l'un des coupables est notre choix de mode de transport. Trou noir financier. J'ai longtemps eu du mal à mettre le doigt sur une règle à suivre pour le choix d'un véhicule. Cet achat est à l'évidence un trou noir financier. Chaque boîte de métal de 1900 kilos que j'ai possédée m'a donné un excellent point de vue sur la destruction de richesses que ces machines peuvent accomplir. Assurance, dépréciation, nouveaux pneus, nouveaux freins, essence, changement d'huile, égratignures en tout genre, sans parler du stationnement, des frais d'immatriculation, des constats d'infraction. Pris isolément, chaque dépense semble raisonnable. Mise ensemble, elle se transforme en une meute de chiens enragés lâchés dans nos finances. J'ai longtemps eu du mal à trouver une bonne règle. Mais je suis tombé récemment sur une vieille règle qui a permis à des milliers de personnes d'épargner collectivement des millions de dollars, règle que j'ai suivie dans ma vie sans m'en apercevoir. D'abord, ce que j'aime dans cette règle, c'est qu'elle tient compte de la composition chimique du cerveau humain. Par exemple, on sait que l'effet d'euphorie de la possession d'un nouveau véhicule s'estompe au bout de 6 mois environ. Après cette période, nos niveaux de dopamine cessent de grimper lorsqu'on s'assoit au volant de notre machine. Notre véhicule n'est plus un cheval blanc, un vaisseau spatial du futur, l'ingéniosité du monde fait objet. Il devient, à nos yeux, ce qu'il n'a jamais cessé d'être aux yeux des autres. Un véhicule de plus dans une province qui en compte déjà 5 200 000. Les choix des millionnaires. Acheter un véhicule neuf est par conséquent un piège qui fait disparaître des milliers de dollars en dépréciation pour un peu de cuir rigide et pas grand-chose d'autre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les millionnaires américains ne conduisent généralement pas de véhicules neufs et préfèrent les Toyota et Honda aux marques de prestige. Alors, de quoi s'agit-il? La fameuse règle dit qu'on ne peut pas dépenser plus que 10% du revenu annuel brut de son ménage pour l'achat d'un véhicule. L'objectif est de le garder pendant 5 ans au minimum, idéalement 10 ans. En clair, un couple qui gagne la moyenne québécoise de 81 000 $ par année ne devrait pas dépenser plus de 8 100 $ pour l'achat d'un véhicule. La bonne nouvelle, c'est que le prix des véhicules usagés a beaucoup chuté depuis les sommets des dernières années. Kijiji et Marketplace débordent de petits et gros véhicules en bon état qui se vendent autour de 8 100. On en retrouve actuellement plus de 7 000 au Québec sur Kijiji, notamment une Honda Civic 2012, une Subaru Impreza 2009 et une Nissan Leaf 2012. Ça, c'est pour le ménage moyen. Si votre ménage gagne la somme princière de 150 000 $ par année, vous pouvez vous gâter et dépenser 15 000 $ pour votre prochain véhicule. Près de 14 000 véhicules sont offerts à ce prix ou moins sur Kijiji au Québec. Pour 15 000 $ vous pouvez vous procurer une valeur sûre comme une Toyota Corolla 2018 ou une Honda CR-V 2017, une camionnette Ford F-150 2015 ou encore un luxueux VUS Audi 2014. Ces véhicules ne sont pas assez opulents pour vous? Le problème avec les véhicules, c'est qu'on les compare de façon horizontale, c'est-à-dire avec ceux de nos contemporains. Ces derniers sont en majorité endettés et mauvais avec l'argent. Le prêt au taux moyen au Canada affichait un solde de plus de 26 000 $ au premier trimestre de 2023. Alors, ça va biaiser notre comparaison. Il est plus juste de comparer avec la vie de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Je ne crois pas me tromper en affirmant que 99 % des 10 000 générations qui nous ont précédés sur cette terre perdraient connaissance si elles pouvaient revenir à la vie et se mouvoir à bord d'une Toyota Corolla 2018. Seulement activer l'air climatisé et les vitres électriques ferait de nous des quasi-dieux aux yeux de toute personne ayant vécu sa vie avant 1950, y compris les personnes les plus riches et les plus puissantes de la société. Que faire si vous gagnez moins de 25 000 $ par année? Selon cette règle, vous ne pouvez pas acheter un véhicule automobile sécuritaire. Parmi vos options, vous avez le covoiturage, le vélo électrique, le scooter, les transports en commun ou un mélange de tous ces modes de transport. Notez que cette règle a pour but l'enrichissement, qui est une autre façon de dire sécurité, liberté, indépendance et baisse de stress. Si cela ne vous intéresse pas, ou si votre maison est payée et que vous avez 3 ou 4 millions en actifs financiers, sentez-vous bien à l'aise de l'ignorer. D'ailleurs, je possède des actions de plusieurs constructeurs automobiles dans mes fonds indiciels. Je suis copropriétaire de Volkswagen, Mercedes, Toyota et Tesla, pour n'en nommer que quelques-uns. Et je serais ravi de vous avoir comme client. Nos taux de financement sont imbattables. C'était « Ce qu'on devrait dépenser pour l'achat d'un véhicule », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 20 août dans La Presse.